Roland doit nous quitter à 18h précis, c'est de toute façon la fin de la session. Donc je pense qu'on va essayer d'utiliser les 10 minutes, un quart d'heure, mais plus tout à fait un quart d'heure, qui reste pour au moins partager encore les dernières réflexions avec Roland. Il a pu faire le tour un tout petit peu de nos propres ateliers, de nos propositions, et donc... il a peut-être un certain nombre de commentaires qu'il voudrait faire, et si aussi vous avez encore une ou deux questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Roland,
je te passe la parole.
Merci Yves. Tout d'abord, sur les sur le premier exercice, enfin l'exercice d'avant, donc je ne sais pas comment vous l'avez appelé, celui de avec les ronds, les plus et les moins. Comment il s'appelle ? Le mapping, voilà, le mapping. Je crois que ce qui est intéressant, c'est... Bon, déjà, je dois dire qu'il y a eu un très très bon travail réalisé par tout le monde dans la liste consciencieuse de toutes les universités, de toutes les ONG, de tous les organes, de toutes les institutions gouvernementales, les ministères. Donc je pense que c'est déjà une très très bonne base de travail pour les ONG, pour ensuite se mettre à travailler au niveau national, pour le travail qu'elles font sûrement déjà. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les différences, par exemple, au sein des ministères, voir qu'il y a beaucoup, on réussit à vraiment différencier, au sein d'un ministère, pour dire que le gouvernement n'était pas monolithe, et qu'au sein d'un gouvernement, il y avait des ministères avec lesquels on peut plus travailler que d'autres. Ça, je trouve que c'est intéressant à soulever, puisque effectivement, le ministère de l'Éducation sera peut-être plus facile à aborder que le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Justice. Peut-être que le ministère des Affaires étrangères aussi aura un profil différent encore, puisque c'est eux qui souvent s'occupent de l'EPU ou qui coordonnent l'EPU, donc ils auront peut-être un rôle plus rassembleur que le ministère de la Justice ou de l'Intérieur qui a absolument aucune connaissance de l'EPU et qui sera peut-être réfractaire à tout. Donc c'est intéressant de voir les nuances qu'il pouvait y avoir au sein des ministères. Au sein des médias aussi, après ça dépend des pays, mais il y a effectivement beaucoup de pays où certains médias sont plus ou moins libres. Donc il y a des médias qui peuvent être vus comme une menace, entre guillemets, ou enfin, comme en tout cas comme une... Comme un non-appui, et ça c'est intéressant à voir, notamment sur l'interprétation de l'EPU. Il peut y avoir certains médias qui vont utiliser l'EPU à leur fin, donc ça c'est intéressant, c'est important de savoir justement voir sur quels médias on peut compter ou pas, et comment les utiliser, et puis comment essayer de bloquer ceux qui peuvent être néfastes. Il y avait je l'ai vu une ou deux fois, le Parlement, et ça c'est important, et puis notamment souvent, ils ont des sous-commissions sur les droits de l'homme ou sur les relations internationales. Et effectivement, ça peut être un bon allié parce que c'est souvent le Parlement qui doit voter les lois. Donc, il y a souvent besoin du Parlement pour faire avancer et mettre en œuvre les recommandations de l'EPU. Et donc, de travailler avec un groupe de parlementaires clés qui pourra être utile à faire avancer l'EPU, à faire avancer... le processus, notamment, il y a à Genève, il y a une organisation qui s'appelle IPU, Interparliamentarian Union, voilà, tout simplement, qui font d'ailleurs le 12 et 13 novembre un séminaire sur l'EPU et comment former un petit peu les parlementaires sur l'EPU. Et donc ça, c'est un peu les parents pauvres de l'EPU. On n'en parle pas beaucoup des parlementaires. On parle à juste titre des ONG, des institutions nationales et des médias même, mais des parlementaires pas beaucoup, et c'est très juste de l'avoir identifié comme une force importante. Maintenant, le deuxième exercice, le champ de force, je pense qu'il est utile de dans les priorités de voir, déjà de savoir ce que vous pouvez obtenir de l'EPU, et qu'est-ce que l'EPU en fait. Qu'est-ce que l'EPU et qu'est-ce que n'est pas l'EPU ? Bon, je pense qu'il y a, d'après ce que j'ai vu, il y a une très bonne connaissance de ce qu'est l'EPU, puisque là, j'ai vu des priorités assez concrètes et assez réalistes. Mais c'est important de savoir que voilà, l'EPU n'est pas un mécanisme d'urgence, que l'EPU peut amener du changement, mais sur le long terme. Et donc, c'est important d'avoir des priorités et des attentes en accord avec le mécanisme. Après, il y a d'autres mécanismes des droits de l'homme, il y a d'autres systèmes que vous pouvez utiliser. Mais en tout cas, les PU, c'est important de savoir. J'ai vu beaucoup de priorités de changement sociétal, en fait, contre les violences à l'égard des femmes, contre les mutilations génitales. Donc, il y a beaucoup de choses qui, effectivement, demandent du temps et pour lesquelles les PU peuvent être utiles, puisque les PU peuvent aider à créer un débat au sein du pays, notamment avec les médias, avec différents acteurs. Donc, identifier des priorités qui peuvent être utiles pour les PU et pour lesquelles les PU peuvent être utiles, ça, c'est important. Et puis, en même temps, savoir être précis dans les priorités, ou à l'intérieur de chaque priorité, en tout cas, identifier les étapes par lesquelles vous pourrez arriver à vos fins. Parce qu'il est important d'avoir une vue d'ensemble, donc d'identifier les 4-5 priorités du pays pour vous, pour les 4-5 prochaines années. Mais à l'intérieur, parce que les priorités devront se transformer en recommandations. Donc là, ce sera pour une priorité, identifier les différentes étapes par lesquelles arriver à cette fin, et donc pouvoir identifier les différentes marches à gravir au sein de chaque priorité. Et puis j'ai vu une force négative qui revenait souvent, qui était intéressante, c'était l'ignorance de la population, pas forcément de l'EPU, mais des droits de l'homme ou des besoins. Et ça, c'est là encore le travail avec les médias, ça c'est vraiment important, l'éducation aux droits de l'homme, bon, ça c'est le cœur de votre travail, donc ça tombe bien. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que c'est une des forces négatives le plus soulevées, parce qu'il y a une connaissance de ce problème, mais c'est effectivement, je crois, quelque chose d'assez intéressant. Et puis ça veut dire qu'il y a encore pas mal de boulot à faire, donc c'est positif, je crois. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir en quelques minutes.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ou aurait un commentaire à vouloir ajouter? En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé comme ça ce temps dans les différents, dans les ateliers, d'avoir regardé ça aussi avec autant d'attention. Est-ce qu'il y a un commentaire, une réaction ou une question qui voudrait être posée par l'une ou l'autre d'entre vous? Si ce n'est pas le cas, ben je vais vraiment remercier Roland d'être venu en cette fin de journée avec nous pour compléter les éléments qu'on avait déjà eus. Je crois que nous apporter des suppléments d'informations sur lesquels on n'avait pas parlé, on n'avait pas eu l'occasion de parler d'un certain nombre de points. Et ça a été vraiment très, très utile qu'on puisse compléter ces informations. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je crois qu'on peut applaudir la contribution que Roland nous a apportée.